podcast.com. Essaye ça. Ben oui, on a décidé de remettre Legacy of the Wizard comme trame sonore. C'est Jason qui voulait me faire plaisir parce que j'ai été un grand garçon. On va en parler tantôt, hein? Ben ouais, Jason?
Ouais, pas mal ça.
C'est ça, parce que Jason puis moi, ben, avec Emmanuel aussi. Salut Emmanuel.
Hey, salut.
On est content de vous inviter à ce nouvel épisode de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Moi, je m'appelle Tommy Godette et vous avez entendu parler de l'équipe au complet. Ce soir, l'épisode s'appelle « Aux portes de la Phyrexie ». Parce que la Phyrexie, hein, ça va jamais bien loin dans Magic. C'est le premier boss de la fin, on pourrait dire. Ça pourrait être ça. Hein. Je me souviens, tu en avais parlé jadis. Là, ça venait de l'huile là, que quand on utilisait des roches qui donnaient de la magie, là, il y avait des fois de l'huile qui sortait. Là, puis là, le monde, il savait plus. Puis à un moment donné, Urza, il a fait péter tout avec le Golgothian Silex, qui est un artefact vraiment pas si bon que ça quand tu y penses. Ouais, OK.
C'est une carte de storyline. Mais continue.
Non, ben c'est ça. Là, je veux dire, on est pas
c'est ça. Fait que,
là, à date, on sait juste que ça existe puis que ça a été repoussé plus d'une fois parce que c'est ça.
Moi, ce que je me propose, c'est qu'on va faire un épisode en deux parties. Je veux. Parce que tu sais, on sent qu'on s'en va sur la Phyrexie. L'automne prochain, ils font un remake du Brothers War, hein, d'Antiquity, justement. Fait que je me suis dit, tout au courant de l'été, là, on va faire plusieurs épisodes sur la Phyrexie. Puis je voulais commencer en faisant deux épisodes qui vont faire une espèce de wrap-up de qu'est-ce qui se passe avec Tezzeret, les Praetors de New Phyrexia, puis le Portal, puis pourquoi soudainement il y a des Phyrexiens sur différents plans où est-ce qu'on va. Fait que aujourd'hui, on va faire ce qui rapporte au portal, hein, les portes de la Phyrexie. Puis la semaine prochaine, ben, on va faire un petit wrap-up là, de genre de résumé de Kaldheim, de Kamigawa et de New Capenna, de qu'est-ce qui se passe avec les Phyrexiens. Puis qu'est-ce que. Il semblerait que Tezzeret, là, je pense qu'il prépare un mauvais coup envers les Phyrexiens.
Encore.
C'est Tezzeret, hein, faut pas y faire.
Tout le temps un traître.
Mais oui. Bon. C'est ça qui arrive avec les méchants aussi, c'est qu'ils finissent tout le temps par se trahir. On l'a vu dans Fast and Furious 1 à 10. Les
entre autres.
Ouais, c'est ça, entre autres. Donc, ben content. Là, je veux dire, moi, le lore, c'est mes épisodes préférés. On commence par quoi? Tu partages
ton... Ben, écoute, vendredi soir, je voulais glisser un mot. Félicitations pour ta soirée, Tommy Godette. On s'est ramassé chez vous vendredi soir pour faire du multiplayer Legacy.
Ouais,
moi, je suis parti à minuit, puis tu sais, je suis arrivé à 7h, je suis parti à minuit, puis j'avais l'impression que la soirée commence. Avez-vous fini 7h?
On a joué au moins une autre game quand t'es parti. Là. J'ai pas beaucoup gagné. Il faudrait que je redonne de l'amour à toutes mes affaires. Là. Tu sais comment ça marche. Là. Oh là 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 là. Pourquoi n'y a-t-il plus de temps dans une journée? Mais oui, effectivement, ça a été très plaisant. Vraiment.
C'était quelque chose. Fait longtemps que j'avais pas fait du multiplayer en gang de ketchup.
Je pense que la méthode, ce serait probablement de faire des teams puis de se promener parce qu'on joue dans ma chambre, dans le salon puis dans la cuisine. Fait que là, ça fait comme 3 spots que tu peux être 4-6 personnes. Puis là, ben, tu sais, si on fait des teams de 2, puis on peut se promener puis chiller puis tout. Non,
ben, il y avait un bon 10 personnes, je pense, dans le pic.
Ouais, ça a été très plaisant.
Ça roule quand même, c'est pas mal cool. On va falloir remettre ça bientôt. Puis Empereur aussi, c'est tout le temps le fun, notre 3 contre 3. Il y a une méta à explorer de ce moment-là.
C'est mieux avec 2 Battlefields qu'avec la zone de 2, par contre. Je pense à ça.
Vous êtes divisé la table, là, ceux qui jouent à gauche jouent juste avec eux autres.
Quand tu es un Empereur, tu peux décider de caster un monstre d'un Battlefield ou dans l'autre. T'es comme le seul qui a accès aux deux. Puis là, mettons que tu castes ton monstre ou ton artefact ou whatever dans le battlefield de droite, ben ça a effet dans le battlefield de droite. Parce que ça change un peu, parce que mettons que tu fais un Wrath of God puis que ça target jusqu'à deux personnes, ben la personne qui est à l'autre bout de la table, qui est peut-être en train de faire chier ton partner, ben là, tu peux pas agir dessus jamais. Puis c'est un petit peu fatigant parce que ça fait que les decks aggro, ils ont un gros avantage en faisant ça comme ça. Fait que en faisant deux Battlefield, si mettons tu fais ton Wrath of God, là tu choisis toi de quel Battlefield tu veux le faire, ben là les affaires sont différentes. Puis là, ben l'empereur, lui, il peut caster ses monstres dans un ou dans l'autre, mais il peut le changer aussi de un à l'autre. Mais tu sais, c'est tu tapes, puis là tu changes de Battlefield, ou tu le tapes puis tu donnes le contrôle à ton sidekick qui est en avant de toi. Là, ça, la dernière fois qu'on avait joué Empereur, ça avait été mieux comme ça. Voilà. Probablement qu'il y aurait un long livre à écrire là-dessus. Là. Chaque sous-manière de faire a des particularités. Là. Comme toi, hein, on a joué Two-Headed Giant aussi, puis là, tu faisais des Flame Rift tout le temps.
Oui.
Ça change pas mal la gamique. Là, nous autres, on avait fait à un moment donné que quand c'était tous les joueurs... chaque dé comptait pour un joueur, mettons. Fait que si c'était de faire discarter deux cartes à un joueur au hasard, ben là, t'en prenais deux au hasard, là, une de chaque bord. Là, il y a toutes sortes de variantes, en tout cas.
Ouais, j'avais essayé de faire un burn pour burner tout le monde en même temps. Là. C'était Price of Progress, Flame Rift, puis finalement, je me suis retrouvé à me tuer moi-même avec mes mana vaults.
Ouais, mais... on avait quand même ri de toi pas mal. Là, c'est vrai.
Très humiliant.
Ouais. il a comme fait son gros spell en tapant sa mana vault, puis je me rappelle pas. Là, je pense que je t'avais.
Je me suis fait counter spell, puis là, ma mana vault. Tu sais, ça aurait fait beaucoup de dégâts si ça aurait fonctionné. Mana vault, faut que tu payes 4 à l'upkeep, sinon il te fait un de dégâts à tous les tours. Fait que,
là, il était à 4 d'énergie, puis il n'y avait rien pour untaper sa mana vault. Fait que on. Bon, c'est ça. À chaque tour, on disait, puis Jason, tu crèves-tu bientôt?
Mais ma meilleure anecdote de la soirée, là, puis j'avais hâte d'en parler à Terrain Basique, là, c'est Bourboloop.
Oh, ah oui,
l'émission, qui se pointe avec son gros deck et qui se met à faire, je pense qu'il fait genre 12 brainstorm.
Dans le même game.
Fait chier des lands. Puis tout ce qu'il faisait, là, c'était à chaque fois c'était son tour, là, comme brainstorm. Je vais chercher un double land, je mets mon double land en jeu, je passe le tour.
Oh, ouais,
brainstorm, je fouille dans ma librairie jusqu'à temps que je trouve un double land, je mets ma double land en jeu, je passe le tour. Je fais un fetch land, je vais chercher mon double land, tu sais, des double land revise là, qui vont à l'hypothèque. Puis à un moment donné, là, je sais plus qui a collé, c'est comme, qu'est-ce que c'est, man? Ton deck, là, sa seule fonction, c'est de montrer que t'as des double land.
C'est de flasher des...
Flasher tes double land parce qu'il n'y a rien fait d'autre.
C'était une stratégie comme un autre.
Il a sorti Jace à un moment donné, le Planeswalker. Puis,
tu fais des brainstorms pour aller chercher.
Là, il a fait un brainstorm pour aller chercher un brainstorm pour aller chercher du world land. brainstorm, c'est un bleu, c'est un instant. Ça fait que tu piges trois cartes et tu dois remettre deux cartes de ta main sur le top de ton library. Fait que des fois, avec des lands que tu peux sacrifier pour aller chercher un autre land, fait que là, tu brasses ton library. C'est ça, tu peux potentiellement repiger trois cartes. C'est très, très fort. Brainstorm, c'est une des meilleures cartes de ce genre-là. Mm-hmm. Et ben voilà. En tout cas, ben, merci Bourboloop.
C'est excellent pour les decks de combo.
Ouais. J'aimerais mentionner Arrow aussi
que... gagner des games avec son deck de fées qu'elle a acheté... préfète, là, genre.
Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais parler, le Spirit, le deck de Spirit bleu et blanc.
Ah, ça, c'est celui de Bourboloop.
Non, il y avait le Jonathan, je pense.
Ouais, c'est Joe.
Il m'a dit qu'il avait acheté un deck préfète, qui était un deck de Spirit, puis il a torché des culs.
Ah oui, c'est
mieux. Il avait rien modifié de son deck, là.
Des counter spells, toutes les... troisième tour, il attaquait de 12 flying. Sur trois monstres différents, genre, qui se donnaient tous plus un entre eux autres, là. Allez faire vos cochonneries chez vous, on lui disait. Mais il était trop tard, il était déjà dans nos faces. Tu vas te péter à la gueule. La honte de l'armée romaine. Puis, Caro aussi, elle a gagné une game avec son deck de fées. Ça, c'est chien, là. Tu t'attaques, puis là, avec la super grosse fée, tu gagnes un autre tour de tu peux rejoindre un autre tour, puis là, tu mets autant de fées qu'il y avait de fées, puis là, tu deviens...
Plus de fées, puis...
C'est ça. Ou tu t'es fait
torcher. Tu te fais enfirwapper.
Exactement, exactement. C'est sûr que ça va y arriver si ça vous intéresse de venir essayer de jouer à Magic au musée, dans la bienveillance et dans le legacy civil, pas dans le legacy cruel. C'est ça. Là, si tu peux amener ton deck de loup. Moi aussi, j'en ai un. Là, on va jouer à Roche, Papier, Ciseaux, probablement. Que je vais pouvoir te tuer au troisième tour ou toi tu vas me tuer avant. Ça va dépendre de qui a pogné le Counterspell qui coûte pas de mana. Là. C'est ça, disruptive.
Bref, faites-vous des decks à jouer si vous voulez.
C'est ça. Puis tenez-moi au courant sur Facebook. Je pense que ça amène à la fin de cette aventure-là. On va-tu faire la carte de la semaine pour régler ça tout de suite?
Yep.
J'aime ça, la carte de la semaine pour régler ça tout de suite, mesdames et messieurs. Une présentation de l'adversaire 4303, Sainte-Catherine-Est, très sympathique endroit. La trame sonore est améliorée, mais c'est la seule critique que j'aurais à donner à tout l'établissement. Très sympathique personnage qui l'autre de la place. Sinon, ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le beat à bone. Puis on s'en va vers la carte de la semaine. To the heart, and you're to blame, darling. You get love, burning.
Hey, Tommy,
oui.
Il paraît que Connive, c'est ta découverte de 2022.
Ah ouais, j'aime beaucoup ça, ça Connive. Ben oui.
Donc Connive, un petit rappel, c'est tu quand tu Connive, tu piges une carte et tu discartes une carte. Puis si t'as discarté un non-land, tu mets un +1/+1 counter sur une créature.
Sur la créature qui a Connive.
Sur la créature qui a Connive, bien sûr. Ce qui m'amène à vous parler d'une carte qui fait beaucoup, beaucoup jaser en ce moment. Es-tu capable de guesser c'est laquelle, Emmanuel?
C'est-tu Raffine?
Nope.
C'est quoi le nom du Sphinx?
C'est Ledger Shredder.
Ah oui, ok.
Ledger Shredder. Deuxième.
Ledger Shredder.
Ouais, ça fait des vagues
En Legacy et en moderne. Ouais. Et je pense en standard peut-être, je regarde pas trop standard.
Pas tant, non.
Ledger Shredder, c'est un colorless, un bleu dans New Capenna, hein, un Bird Advisor. C'est dans la gang des Brokers. Non, pas des Brokers, excuse, des Obscura. C'est un 1-3 flying, jusqu'à là ça va, mais à part mentionner que ça le met out of range là, de beaucoup de spells qui font 2 dégâts, là, comme les chocs, ces choses-là. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur joue son second spell, Ledger Shredder connive.
Bon.
Pas juste toi, là. À chaque fois qu'un joueur joue son deuxième spell à son tour, on s'entend que ça arrive souvent, là, surtout ces temps-ci qu'un joueur, en moderne, en Legacy, un joueur joue 2 spells dans un tour, ton Ledger Shredder, il connive. Donc, tu piges une carte, tu discartes une carte, puis si tu as discarté un non-land card, tu mets un +1/+1 counter dessus, ce qui fait qu'il devient assez rapidement, parce qu'on s'entend, là, tu l'as mis deuxième tour, gros minimum, il devient rapidement une 2-4, c'est-à-dire hors de portée d'un Lightning Bolt. Et la machine part, comme on dit là. C'est très vu, notamment dans les decks de, tu sais, les fameux Phoenix, là, rouge et bleu. Mettre ton Phoenix dans ton graveyard le plus rapidement possible, puis de le ramener du graveyard. Donc le Ledger Shredder s'est taillé une place pas pire là ces temps-ci, et aussi dans les decks de réanimateurs là, avec Reanimate, des choses comme ça, parce que Connive, tu sais, vu que tu discartes une carte, tu peux rapidement mettre ton gros monstre dans ton graveyard au deuxième tour, mettre ton counter +1/+1 sur ton Ledger Shredder, et t'as un 2-4, et généralement le troisième tour là, tu fais ton Unearth ou Reanimate, puis là tu ramènes ton gros Grizzle Ben 7-7, merci, bonsoir. C'est la carte à passer. Là, elle tourne autour des 10$ US là, ces temps-ci là, pour les acheter en single. Mais moi, je m'attends à ce que ça monte. Là. C'est la carte à surveiller en ce moment. Il y a tout le temps comme une ou deux cartes dans un nouveau set qui splash là, dans tous les formats. Ça, c'est probablement celle de New Capenna. On va voir si ça va durer, hein, parce qu'il y a tout le temps une fâcheuse tendance, des fois, là, la saveur du mois à part vite, des fois. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est solide. Le fait que même les autres joueurs autour de la table, c'est bon en Commander aussi.
Ouais.
Dès qu'un joueur casse son deuxième spell, ben c'est comme merci, je pige une carte, je loot.
Ah, c'est, ouais, il y a plein d'avantages à ça. Là. Puis juste deux pour un 3 flying.
Qui est généralement 2-4.
Balle, là. C'est très bon. Tu peux
très connaître. Bon
tu fais souvent le premier spell, le premier tour que tu le casses, lui, il compte pour le premier des deux spells que tu as casté. Fait que.
Ouais.
Ah, oui, c'est.
C'est
ça d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et man, t'as l'air sceptique ou.
Pas du tout.
Pas du tout.
Écoute. Puis tu sais, j'en ai parlé quand même quelques fois, mais je vais en reparler encore, là. Connaître avec Madness, ça va être awesome.
Toi, tu vas nous préparer de quoi là-dessus, Tommy?
Ah, c'est sûr et certain. Là, on va voir, là. On va voir. On va voir un cadeau à la fois. Donc, merci beaucoup pour ce petit retour. On va aller jaser aux portes des Phyrexiens. Fais un bruit épeurant, man.
Yeah!
C'est pas pire. Toi aussi, essaye, Jason. OK, c'est assez.
On s'en va. Il est épeurant à apeurer.
Ouais, non, c'est ça. Lui, il était sur le receiving end. Donc, écoutez, tranche de beat à bonne. Merci pour la carte d'assaut. Bad name. De quoi qu'on parle, là? Amène-nous dans le monde obscur, des obscurs, Phyrexiens obscurs, avec des pics, puis de la décomposition. Ah, tu sais comment il est lettre, le Priest of Yawgmoth, comment il est cool.
Il est vraiment cool. Ouais. La Phyrexie, c'est probablement le plus ancien vilain de Magic. C'est apparu dans la deuxième extension, dans Antiquities, en l'hiver 94. Ils ont créé pour l'occasion, c'est quasiment comme les premiers noms propres associés à Magic. Tu sais, t'avais dans Alpha, le premier set de Magic, t'avais Mishra et Urza qui avaient deux cartes chacune. Puis ils avaient décidé pour Antiquities, ils savaient pas trop quoi faire là, comme ça. Fait qu'ils avaient dit, oh, on va vraiment faire quelque chose de simple. Toutes les cartes dans Antiquities interagissent avec des artefacts. Puis ça va être quoi la saveur des cartes noires par rapport aux artefacts? Ben, c'est qu'ils détruisent des artefacts et les réutilisent. Donc c'est du sacrifice pour faire du value. Et ça c'est resté depuis la thématique centrale de ce qu'on appelle les Phyrexiens. Le Priest of Yawgmoth, là, c'est un 1-2 pour 2 que tu tapes pour sacrifier un artefact et faire de la mana noire en quantité de casting cost de l'artefact que tu as sacrifié. Ça vous donne une idée, là. Puis tu avais aussi une carte, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode les portes de la Phyrexie, parce qu'ils ont mis ça très vite que la Phyrexie, c'était l'enfer des artefacts. C'était un plan d'existence là, parallèle à Dominaria. Et où les Phyrexiens étaient enfermés et ne pouvaient pas s'échapper, sauf s'ils avaient accès à des portails. Donc, les Phyrexiens étant des machines réanimées, ils n'ont pas d'âme. Donc, ça, c'était établi dès le départ. Et le Gate of Phyrexia dans Antiquities, c'était le seul portail qui existait sur Dominaria, qui avait été malheureusement ouvert par Urza, qui cherchait des façons de détruire
Mishra.
Qu'est-ce qu'il fallait?
Jouer dans Phyrexia, il voulait juste aller voir. Ben oui.
Gate of Phyrexia, là, c'est un portail, c'est un enchantement. Tu sacrifies une de tes créatures à ton upkeep pour détruire un artefact. C'est aussi la première mention, la fameuse huile. Ça dit là dans le flavor text, « The warm rain of grease on my face immediately made it clear I had entered Phyrexia. » C'est signé Jarzil Diaries. Donc, à partir de ces deux cartes-là, ils ont pas mal établi dans les sets suivants, ça allait être quoi la saveur des Phyrexiens. C'est une espèce d'entité maléfique qui a un esprit commun. Tu sais, Yawgmoth, c'est le chef des Phyrexiens, mais il s'incarne à travers la volonté de chacune de ses créatures. Il n'y a pas de corps propre de lui-même, là. Et, c'est une espèce de dieu maléfique, là. Mais machine, là. Tu sais, il n'y a pas d'âme en Phyrexie, là. Il n'y a pas de, tu sais, c'est carrément des machines animées par de la mana noire. Et on a suivi ça là, à travers toutes les sets qui ont suivi. On se rappelle à la fin des Brothers War, Urza active le Golgothian Silex pour détruire toutes les cartes d'Antiquities, dans le fond, détruire les Phyrexiens et aussi les habitants de Dominaria. Et ça crée le Ice Age, hein, le fameux Ice Age qui est sorti en 95. Et dans Alliance, qui était l'extension de Ice Age, on avait remis les Phyrexiens. Ils teasaient là, que sous les glaces, les Phyrexiens avaient été. Tu sais, les Phyrexiens qui étaient sur Dominaria. Ben, Arkum Daxon, là, qui était l'artificier bleu qui fouillait à travers les glaciers pour atteindre les artefacts et les utiliser, il a redécouvert, dans le fond, là, des réactivé malgré lui des Phyrexiens, tu sais, le fameux.
Un barnac, ça va faire.
Donc, il y avait dans Alliance, il y avait le Phyrexian Portal, hein, encore un portal pour 3 colorless. Ça, c'est vraiment bizarre, cette carte-là. Là. C'est un artefact. Ton adversaire regarde les 10 premières cartes de ta librairie et les sépare en 2 piles. Tu choisis une des 2 piles et tu l'exiles de la game. Tu cherches ensuite la pile qui reste et tu mets une de ces cartes-là dans ta main et tu shuffles le reste dans ta librairie. C'est très étrange comme mécanique. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est dans le fond, c'est comme l'ancêtre de. Ça s'appelait donc pas Show and Tell. C'est que tu fais deux. Ouais, Fact or Fiction, ça c'est l'ancêtre là. C'est très clunky.
C'est très compliqué pour rien.
Oui, ça revient cher, mais tu peux dans remove des cartes de ton library run.
I guess.
Ouais, c'est. Mais bon, tu sais. Mon point, c'est qu'ils n'avaient pas encore réussi à faire de quoi de pertinent, mais c'était juste pour mentionner que les Phyrexiens étaient comme présents accidentellement dans le bloc d'Ice Age. Ouais. Où ils ont vraiment brillé, là, qu'ils ont fait leur vrai comeback, là, où ils ont vraiment comme. T'sais, mis la touche là, qui a défini les Phyrexiens par la suite. C'est dans la fameuse Urza Saga sortie en 98-99. Dans le fond, les Phyrexiens, ce qu'ils veulent. Ça, c'est tout ce qui est derrière le Weatherlight Saga hein, avec Gérard puis Urza. C'est les Phyrexiens, ils cherchent un moyen de reprendre le contrôle de Dominaria. Parce que le but des Phyrexiens, c'est que tout le monde devient des Phyrexiens parce qu'ils considèrent que c'est la perfection. C'est ce qu'ils appellent complete. C'est que tout, tu sais, c'est une espèce d'organisme holistique, là. Je cherche un peu les termes, comment le décrire, là, mais tu sais, c'est un genre de virus, là. Comme Tommy fait souvent le parallèle avec le virus, là, le Borg dans Star Trek ou dans Marvel avec Cable. C'est un virus technologique qui veut tout transformer en Phyrexien. Comment? Oui, dans Akira, oui.
Un gros tas de mélange de chair corrompue par la machine un peu, puis là, ils veulent tout te manger parce que tu connais rien puis t'as pas oublié de nourrir ton chien hier.
Donc, au début, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des agents doubles. C'est-à-dire, ça, c'est copié sur Terminator. C'est le Sleeper Agent dans Urza Saga, là, qui est un 3-3 pour un noir, un Summon Minion. Quand il rentre en jeu, tu le donnes à un adversaire. Il gagne le contrôle et le Sleeper Agent à chaque upkeep lui fait 2 de dégâts. Dans le fond, il donne un 3-3 pour un noir. La gimmick là-dedans, c'est ça, c'est de montrer que parce que les Sleeper Agents Phyrexiens, ils infiltrent les royaumes de Dominaria. Ils deviennent les conseillers des rois, puis les politiciens, c'est des clergés, ces choses-là. Et tranquillement, pas vite, là, c'est le but, c'est de faire le takeover de Dominaria. Et Urza, ben, sa job, c'est de les démasquer et de les arrêter. La plus fameuse, elle a donné une créature légendaire qui s'appelle Xancha, là, qui était mentionnée dans le roman. C'est que Urza va réussir à tourner une Sleeper Agent de son bord. Puis ça va devenir un des personnages. By the way, c'est un des premiers personnages non-binaires dans les histoires de Magic.
Oh!
Ouais, il a servi le prétexte de. Tu sais, on est dans les années 90, là. C'était pas encore accepté comme aujourd'hui. Il s'était servi du prétexte que c'est une machine biologique, là. Elle a grandi dans une espèce de. Tu sais, c'est pas créé par des humains, là, les Phyrexiens. Mais je trouvais que c'était bien amené, là, très habile. Et Xancha est un personnage très populaire. Dans le fanlore de Magic, il est une carte en Commander qui est très jouée. Et l'autre façon, c'est que les Phyrexiens voulaient carrément éliminer quelqu'un. Par les portals, ils envoyaient les Negators, les Phyrexian Negators. Deux colorless, un noir, un 5-5 Trample. S'il se fait faire du dégât, tu dois sacrifier un permanent pour chaque dégât qui se fait subir. Là, tu sais, t'es comme souvent, t'as peur d'utiliser ça. Mais moi, je suis un gros joueur de Phyrexian Negators en pré-moderne et c'est vraiment le fun de build around cette carte-là. Là. Parce qu'en fait, tu fais un deck de contrôle, fait que ton but c'est de garder ton Negator en vie qui se fait jamais toucher. Puis si tu réussis à toucher ton adversaire 4 fois, là, la game généralement est finie parce que c'est un 5-5 pour 3. Il arrive généralement au tour 2 et il arrache en esti. Là.
Ouais.
Mais bon, c'était juste pour montrer. Après ça, ils ont pas mal comme fait des cartes qui suivaient un de ces deux modèles-là. Là. C'était soit des Sleeper Agent ou des Firaxian Negator, des variantes de cette carte-là. Donc, tout ça va déboucher vers le cycle de l'invasion, le Invasion Block, qui, je le rappelle, ça avait commencé dans Tempest. Là. Dans Tempest, l'équipage de Weatherlight découvre que les Phyrexiens ont créé un plat artificiel qui s'appelle Rat et qui est en train de fusionner avec Dominaria. Et ils ont aussi des portails pour se déplacer là plus rapidement. Fait que le Planar Portal qu'on voyait sur plusieurs cartes, ça c'est 6 colorless. Tu cherches à librairie, tu tapes 6 mana, tu cherches dans ta librairie pour une carte, tu la mets dans ta main. C'est les espèces là de gros portails volants là, qu'on voit sur plusieurs cartes, notamment le Counterspell Disrupt, parce qu'on voit Teferi et Urza qui Counterspell un Planar Portal. Pas mal cool. Donc ça, c'était on voit sur les cartes qu'on en voit en grande quantité des portails comme ça, et ils ont tous été détruits pendant la guerre entre les Dominariens et la Phyrexie. Donc Là, tu sais, passé une fois que les gates étaient, les planar gates, portals étaient détruits, que bon, on a réussi à vaincre la Phyrexie, mais là, c'est là que le plan B qui était le planar overlay, où ce que Rat a fusionné avec Dominaria, et il y a eu comme plein de Phyrexiens qui ont apparu partout, là. Fait que là, ça, c'est les grosses guerres, là, qu'on a dans les 7 invasions, Plane Shift et, Apocalypse. C'est toutes des storylines que je vais vous décrire au complet cet été. On va avoir du fun avec ça. Mais tout ça pour dire que ces cataclysmes-là ont fait en sorte que, tu sais, les Dominariens ont gagné la guerre, mais les conséquences, ça a été que le temps sur Dominaria était tout déréglé. Puis ça, c'est le bloc de Time Spiral, on a déjà souvent parlé. C'est ce qui a amené notamment la mécanique de... j'ai un blanc de mémoire.
Ça, c'est...
La mécanique là, des Time, là.
Ouais, ouais.
Des Time Counter, là.
Voyons.
Voyons.
Ça va revenir.
Ben, c'est niaiseux.
Ben oui, ça reviendra. Là,
non, mais continue, Jason.
Non.
On va chercher à la place.
Je l'ai trop sur le bout de la langue. Là. C'est suspense.
Ben oui.
Bon, donc c'est ça. Fait que là, le passé était mélangé avec l'avenir, était mélangé avec le présent. On a souvent parlé. Là, les Planeswalkers vont s'allier ensemble, notamment.
Même avec Nicole Beaulas, tu sais.
Oui. C'est surtout Teferi, Freyalize, Lord Windgrace et Karn, ils vont faire ce qui s'appelle le Mending of Dominaria. Dans le fond, le Mending, c'est qu'ils vont réparer en sacrifiant leur Spark. C'est comme ça que Teferi, notamment, perd son Spark à ce moment-là. Ils vont le revoir dans le set Dominaria, mais en sacrifiant leur Spark, ils vont réussir à boucher là, ces espèces de trous dans l'espace temporel. Et l'effet secondaire que ça va avoir en faisant ça, c'est que tous les Planeswalkers dans Magic vont être moins forts, donc ils vont maintenant apparaître sur des cartes. C'était le prétexte pour faire les cartes de Planeswalker. Et aussi, les portails ne fonctionnent plus.
Oh!
Il n'y avait plus de Phyrexiens parce qu'ils ont été battus dans Dominaria, mais ils vont nous teaser ça quand ils vont sortir.
Moi, je veux mentionner quelque chose. Je veux dire que le concept de sacrifier son Spark pour qu'il se passe quelque chose, là, c'est la chose qui ressemble le plus au Quickening de Highlander 2. Quand Sean Connery, il fait une espèce de petite boule de lumière niaiseuse pour virer.
arrêter les listes dans le tuyau.
Ah oui, hey, c'est niaiseux.
Hey, parle-moi pas sur Highlander 2, Tommy. Là,
le meilleur.
C'est le meilleur.
C'est le meilleur. C'est le plus divertissant de tous les Highlanders.
C'est le meilleur, c'est le plus divertissant.
Celui avec Pascal Rousse.
Passe
midi, passe.
Non, c'est le 3. En tout cas, ça, c'est le Mending de Dominaria, et ils vont nous teaser ça ben, comme il faut en 2010, quand on retourne sur Mirrodin et qu'on apprend que, dans le fond, Karn a amené sur Mirrodin par accident de l'huile phyrexien et c'est en train de corrompre le plan au complet.
Ben voyons donc.
Ah ouais,
donc, Mirrodin, qui avait été introduit en 2004, hein, bien avant le Mending, ils nous ont expliqué que c'était un plat artificiel créé par Karn, comme une espèce de sanctuaire où il allait se cacher. Et il voulait créer comme un monde parfait, là, loin des guerres de Dominaria et ces choses-là. Fait qu'il avait créé le plat de Mirrodin avec les cinq lunes qui représentent les cinq couleurs de mana. Et la vie sur Mirrodin était alimentée par les Blinkmoth, qui étaient des espèces de petites lucioles qu'on voit sur notamment Blinkmoth Well et toutes les cartes qui ont le nom de Blinkmoth. Et il y avait un autre aspect sur Mirrodin qui était le mycosynthe, qui était une espèce de champignon qui transformait les choses vivantes en machines. Ah. Et c'est ce qu'on va apprendre, en fait, c'est que le mycosynthe, c'est la phase, le stade primaire de la corruption de l'huile phyrexienne. Donc, mycosynthe Lattice, là, c'est une carte qui est très jouée, 6 colorless. Toutes les permanents deviennent des artefacts. Les cartes qui ne sont pas en jeu deviennent des colorless. Et les joueurs peuvent spender leur mana comme si c'était n'importe quelle couleur. Dans le fond, ça change. Tout devient des artefacts. Puis là, généralement, tu joues ça avec Karn, the Greek Creator, pour qui shut down les artefacts. Fait que tu fais comme un genre de lock.
C'est le tag Magic qui était mort, ça.
Ouais. Mais bon, tu sais, fait que le plan de Mirrodin va lentement se faire. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien exécuté, là. C'est qu'il va lentement se faire corrompre par les Phyrexiens. Mais en même temps, pendant qu'il nous racontait cette histoire-là, ben, on se disait, ben là, à cause du Mending, les portails fonctionnent plus. Fait que c'est pas trop grave. C'est plate pour Mirrodin, mais les Phyrexiens sont pognés sur cette planète-là, parce que les portails fonctionnent plus. Ils nous l'ont expliqué pendant le Mending dans Time Spiral. Fait que t'avais plusieurs cartes, là, la fameuse mécanique de Infect, hein, qui est on voit bien, Ickmon Nexus, c'est son plus grand ambassadeur, là, le Len qui devient un Blinkmoth Artifact avec Infect. Dans tous les decks d'Infect là, qui essaient de. Les Infect, on le rappelle, s'ils touchent. À chaque fois qu'ils te font du dégât, ça change en dégâts Infect. Puis que tu as 10 Poison Counter d'Infect, ben là, tu as perdu la game. Et c'était joué en conjointement là, avec la mécanique Proliferate, hein, qui faisait rajouter des counters à chaque fois que tu avais un counter. On voit sur Inexorable Tide, hein, la marée inévitable, un enchantement qu'à chaque fois que tu casses un spell, tu proliferate. Ou ce qu'on voit, là, l'huile noir de la Phyrexie qui est en train là, tranquillement de faire un gros takeover. Tu vois, on a la citation en dessous de Jin Jitaxia qui va devenir un des Praetors. Voyez comment ce monde accepte notre bénédiction.
Ah, ben ouais, c'est sûr.
Chaque couleur était dominée par un Praetor. Les Praetors étant comme le king et représentent la philosophie phyrexienne de chaque couleur. Les anciens phyrexiens de l'époque de Dominaria, ils étaient de couleur noire seulement en général. En fait, ils étaient dans le Grixis, il y en avait un peu en rouge et en bleu, mais c'était surtout noir. Dans New Phyrexia, ils ont décidé de nous donner la totale, c'est-à-dire que chaque couleur a son interprétation de la philosophie phyrexienne. Ce que ça fait cependant, c'est que une fois qu'ils se sont débarrassés des frails humains, hein, ça c'est dans New Phyrexia, t'avais Scare of Mirrodin, Mirrodin Besiege et New Phyrexia, où ce que les Phyrexiens gagnent la guerre et dans le fond possèdent maintenant le contrôle total de Mirrodin. Tout de suite, ça vire à la guerre entre eux autres. Donc chaque Praetor se revendique d'être l'ultime perfection phyrexienne. Ben oui. Le top, ben, c'est bien sûr Elesh Norn, hein, on a souvent parlé, là, une carte ultime en Commander, hein, 5 colorless, 2 blancs pour une 4-7. Moi, je l'aime bien ici en version langage phyrexien parce que pour l'occasion, ils avaient engagé un linguiste qui avait fait le langage de la Phyrexie, un vrai alphabet fonctionnel, pas mal cool. Elesh Norn, elle, c'est le blanc oppressif, là, l'ordre, c'est que tout doit répondre au blanc phyrexien et vous devez rentrer dans le moule. Elle est un peu à cause d'elle que les autres vont se rebeller contre. Jin Jitaxia, lui, c'est le bleu. Hein? Lui, il dit que il dit dans son flavor text, it is not a goal but a process, the process of creating the perfect phyrexia. Fait que Elesh Norn, c'est comme une conservateur. Elle dit ce qu'on a là maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on préserve et qu'on améliore. Tandis que Jin Jitaxia, lui, c'est du très bleu là. C'est non, il faut constamment transformer les affaires pour éventuellement. On va jamais atteindre la perfection, mais on se dirige tout le temps vers là parce que c'est tout le temps perfectible. Fait que c'est pour ça que dans le bleu phyrexien, dans New Phyrexia, il constamment, il sacrifie des créatures pour piger des cartes, des choses comme ça. On voit sur sa carte, là, au beginning de ton end step, tu piges cette carte, puis si ton adversaire chacun de tes adversaires, son maximum end size est réduit à 7. Ça, c'est quand même pas pire comme carte.
Par 7.
Ouais, de 7. Fait que, s'il y a quelque chose qui fait que son end size il est augmenté de 3, ben, il est plus à 10, il est à 3.
Ouais. C'est très fort, très très fort.
Ben oui.
Ensuite, t'avais Vorinclex, j'en ai déjà parlé. Vorinclex, lui, c'est la perfection de la phyrexie se retrouve dans la nature, dans la brute. Tu sais, c'est la loi de la jungle, là. C'est qu'il faut laisser les phyrexiens se manger entre eux, puis les forts vont naturellement éliminer les faibles.
Ben voilà, hein, c'est Doomsday de Superman.
Ouais. Et tandis que Sheoldred, qui est le prétor noir, lui, c'est vraiment, je dirais, l'emblématique là, des old school phyrexiens. Et je vous signale que c'est le seul Praetor avec Elish Norn, qu'on se doute qui est encore sur New Phyrexia, qu'on n'a pas vu encore de traces à nulle part de Sheoldred.
C'est vrai. Vorinclex, il était dans la
sur Caldeim. Jinji Taxia, je vais en parler la semaine prochaine. Ils vont se retrouver chacun sur d'autres plans. Et tu avais au final Urabrasque, le cachet hein, de Eden. Il donne ace à toutes tes créatures et les créatures de tes adversaires rentrent taper sur le battlefield. Urabrasque, lui, c'est il est dans le moment rebelle, présent, puis c'est le rebelle, tu sais, c'est le rebelle phyrexien, et il rejette l'orthodoxie là, des quatre autres. Ça dit là, quand la résistance des Mira est arrivée, les habitants de la fournaise de Urabrasque, qu'est-ce sont allés voir Urabrasque pour
pour les aider.
When the Miran Resistance arrive, the furnace dweller looked to. Ah oui, c'est ça. Quand la résistance Miran sont arrivés pour se cacher là, proche des volcans de Mirodin, là, les habitants de la fournaise qu'on comprend ici dans le Flavor Text, que c'était comme les servants de Urabrasque, ils se sont tournés vers Urabrasque et ont dit qu'est-ce qu'on fait avec ces Mirans-là, hein, tu sais, des humains pas phyrexiens. Puis Urabrasque aurait répondu laissez-les faire.
Hey, hein?
Laissez venir à moi les Mirans.
C'est ça, le chemin Roxanne des Mirans, man. Lui, c'était correct. Mais là, c'est quoi qui. Là, tu vas sûrement l'expliquer plus tard, mais peut-être rapidement. Là, pourquoi que c'est comme une perfection télépathique d'esprit robotique qui contrôle tout? Non, mais les Phyrexiens, puis là, ils ont 5 leaders différents qui se chicanent.
C'est ça. C'est 5 leaders qui essayent de tasser les 4 autres pour devenir, dans le fond, le nouveau Yagba.
OK.
Puis choisis ta
couleur. C'est quoi ça?
Ben ça c'est les prétors, c'est les évolutions. Parce qu'on s'entend au début, il n'y avait rien. Là. C'était le Mika Sainte.
OK.
C'est le Mika Sainte, c'était de l'huile que Karn a ramené par accident dans son voyage dans le temps où il a reculé dans le passé de Dominaria avec les Phyrexiens. Qui est la carte Karn Temporal Sundering.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut le dire quand on revient au pays si on est allé dans une ferme.
Oui, c'est qu'il a ramené un petit peu d'huile, puis ça l'a contaminé la phyrexie.
Voilà.
Et éventuellement, les formes ultimes, tu sais, ça grossit, puis ça s'améliore, ça se reconstruit. Okay, et les formes ultimes, éventuellement, c'est les Praetors. Les Praetors sont arrivés sur Mirodin et ont développé. Tu comprends? Et le Schnorn, là, elle est assemblée de plusieurs morceaux d'habitants de Mirodin.
Ouais, OK, je comprends.
C'est des formes évoluées. C'est pas les créateurs. C'est différent de. Yagmoth était le créateur des Phyrexiens originales.
Okay.
Mais eux, les Praetors, c'est les formes ultimes.
OK, je comprends.
Une grosse différence. Mais là, c'est de savoir, tu sais, comme lequel des cinq va l'emporter. Là, présentement, tout le monde mise sur Elish Norn parce qu'à la fin de New Phyrexia, c'est pas mal elle la bosse, mais tu sais, Jinji Taxia, je vais en parler la semaine prochaine.
Ben,
qu'est-ce
qu'il
peut faire sur Kimigawa? On en a parlé, bien sûr, dans l'autre épisode. Mais quand on le met en relation avec qu'est-ce que Vorinclex est allé faire sur Caldeim?
Ah, ben là,
qu'est-ce que Urabrasque est allé faire sur Capena?
Ouais. Oh, ouais. OK.
Vas-y, Eman, essaie
non,
de ton...
Je ponctuais chacune de tes affirmations.
Ah. Oui, on veut savoir. Hein? On a hâte. OK, c'est bon, j'avance. C'est bon.
Dans New Phyrexia, en fait, c'est dans Mirodin Besiege, il y avait Tezzeret, agent de Bolas. Hein? On a déjà parlé de ben Tézérette. Oui. Il vient du plan de Esper. Lui, son but, c'est de parce que comme tous les habitants de Esper, leur but, c'est aussi la perfection, mais c'est une perfection un peu plus, je dirais, esthétique, là, parce que leur métal ultime, c'est l'Ethereum, qui est une espèce de métal magique qui prend la forme que tu veux. Là. Fait que Tézérette, son but dans la vie, c'était de comme tous les autres habitants d'Esper, c'était de se transformer complètement en structure d'Ethereum. Et là, il a découvert, dans le fond, qu'il y avait un Planeswalker Spark. Il est devenu le serviteur de Nicole Bolas. J'en ai déjà parlé dans les vieux épisodes. Nicole Bolas, la première job qu'il lui donne après avoir réalisé le Conflux, qui était le cas qui a fusionné les 5 shards d'Alara, là, il envoie Tézérette sur Mirrodin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au Mirrodin? Fait que c'est pour ça que dans Mirrodin Besiege et dans New Phyrexia, il y a des cartes avec Tézérette dessus. Tézérette Gambit, 3 colorless, un mana phyrexien bleu. Tu piges 2 cartes, puis tu proliferates. On voit Tézérette là, qui est comme caché derrière un mur et qui regarde une espèce d'assemblée de phyrexiens. Il était allé là-bas pour dire à Nicole Bolas, dans le fond, qu'est-ce qui se passait.
Okay.
On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans le temps qu'il était là-bas. Il n'y a pas beaucoup de cartes là, qui l'expliquent. Il y a un roman qui est vraiment pas bon, que je ne vous conseille pas de lire, qui touche à peine à cette histoire-là. Mais dans le fond, Tézérette, il voit les Phyrexiens comme une espèce de raccourci vers ses ambitions de Esperien. Hein. Il se dit il y a peut-être une entité plus forte que Nicole Bolas dans le multivers, les Phyrexiens. Puis en plus, les Phyrexiens, leur problème, c'est qu'ils sont pas capables de bouger d'un plan à l'autre. Parce que les portails ne fonctionnent pas. Voilà. Fait, qu'est-ce qu'il fait, Tézérette? Et je vais finir là-dessus. J'en avais parlé dans l'épisode 108. C'était tout le subplot de Kaladesh. Une petite pause pour laisser Tommy rire ici, ça me plaît à chaque fois.
Je m'excuse.
Donc, Tézérette de Schemer, hein, c'était dans Kaladesh et Aether Revolt. Il sera sur Kaladesh. Au fil des manigances, là, on avait parlé de ça, il convainc là, le Inventor Fair, qui est le gros festival d'invention. Tézérette va aider les créateurs de Kaladesh de créer en fait le premier portal post-mending qui fonctionne. Parce que le but de Tézérette, bon, tu sais, son but c'était que Nicole Bolas s'en sert pour, on a déjà parlé, pour amener son armée sur Ravnica pour faire le War of the Spark. Hein. Mais je pense que Tézérette a tout le temps eu ses propres ambitions avec le fameux Planar Bridge. C'était de l'utiliser pour faire une alliance avec les Phyrexiens, de dire aux Phyrexiens, hey guys, moi, je suis capable d'être votre taxi. Ce qu'on n'a jamais su, c'est qu'est-ce que Tézérette avait en échange des Phyrexiens. C'est ce qu'on va aller voir la semaine prochaine.
Ouh!
Bam, bam, bam!
Il y a comme une job de complétage, probablement, qui était déjà amorcé. Là. Tézérette qui a déjà plugué ses machines.
Ouais, mais c'était pas possible de compléter Planeswalker à ce qu'il savait dans ce temps-là.
Ah, par quoi, à cause de l'affaire de l'âme, là.
Ouais.
Gâche pas les punchs du prochain.
C'est toutes des affaires dont on a déjà jasé.
Bon, ben, merci beaucoup, Jason. J'ai déjà très hâte à la suite. Merci, Emmanuel, d'être passé.
Plaisir. Toi.
Merci à l'adversaire 4303 Sainte-Catherine Est pour nous épauler dans les heures les plus sombres. Merci aussi à Bone pour son beat. Puis à Martin Godette de podcast.com pour le montage. Terrain basique est disponible sur Spotify. Merci, Nonours, d'avoir été tranquille. Checker ça, mon beau t-shirt.
Que j'en veux un.
C'est Bruno. Il est écrit ben oui. Ah fuck. Puis là, il y a Bruno en dessous. C'est sur. Oui, sûrement que t'en veux deux. On s'en reparle. Donc, mon nom est Tommy Godette. Merci, Eman. Merci, Jason. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascro possible.
De la famille H2O Web Media.